bienvenue, chères auditrices, chers auditeurs, à l'émission « Qui suis-je ?». Nous sommes ici, non pas en studio, à la radio Judaïka, mais nous sommes dans un temple de la gastronomie locale. Donc il y aura peut-être un peu des bruits de fond, puisque nous enregistrons ce matin. Et comme dans tout restaurant, eh ben, y a une mise en place à faire. Donc on va peut-être entendre des livreurs, peut-être des cuisiniers. Et je trouve que ça donne un peu de vie, en fait, à mon émission. Je suis heureux ainsi d'entamer un nouveau chapitre avec des enregistrements dans des lieux publics. Nous sommes là, donc, dans un lieu unique qui, au fil des décennies, est devenu une véritable institution. Ce lieu concurrence, à mon avis, même la cathédrale, tellement il est intimement lié à la ville de Strasbourg. Je crois que Jacques Chirac, en grand connaisseur, ne s'est pas trompé en venant ici sûrement plus souvent qu'à la cathédrale. J'ai demandé d'ailleurs, pour cette émission, d'être assis exactement où Jacques Chirac avait l'habitude de s'asseoir. Et, je dois dire, cela procure un certain effet. En effet, à 17 ans, comme je l'ai déjà dit dans l'émission, j'ai eu la chance de déjeuner en face de François Mitterrand, à l'Élysée. Mais aujourd'hui, je vais plus loin et je m'installe dans le siège même du président. En 37 ans, je progresse donc, et si vous avez bien suivi, vous connaissez maintenant mon âge. Nous sommes donc ici, vous l'avez compris, chez Yvonne, ce restaurant alsacien, emblème de notre gastronomie et emblème de notre ville. En face de moi, je reçois un personnage unique qui a repris le restaurant chez Yvonne. Je le suis depuis longtemps, je le suis de loin. Je ne l'ai croisé que quelques minutes, à l'inauguration du journal Le Torchi. Je dois dire, quand je parle du Torchi, aux auditrices et aux auditeurs, de vous abonner. N'oubliez pas, sortez vos cartes bancaires et abonnez-vous pour la liberté de la presse sur letorchi.com. La chaleur de mon invité, sa bienveillance, son histoire et ses combats, ses prises de position font de mon invité un personnage moderne, progressiste et pour le moins atypique. Je pense que ce dernier mot est celui qui résume le mieux mon invité, atypique. Je reçois donc, évidemment, Jean-Louis de Valmigère. Il y a deux petites traditions dans mon émission, c'est que je tutoie toujours mon invité.
Aucun problème, au contraire.
C'est parfait. Et on démarre l'émission, je demande toujours à mon invité de prononcer le titre de mon émission, « Qui suis-je ?» et de se présenter en quelques mots.
Alors, qui suis-je ? Eh ben, Jean-Louis de Valmigère, strasbourgeois, pur sucre, pur beurre. J'ose pas dire mon âge, mais un certain âge. Je suis né tout de suite après la guerre. Je suis même un enfant du quartier ici, puisque je suis né rue des Pucelles, à deux pas de la cathédrale. Je suis un élève du lycée Fustel de Coulanges. Il faut dire qu'à cette époque, et on ne peut pas s'en rendre compte aujourd'hui, le centre-ville était habité par des gens pauvres. La rue des Pucelles où j'habitais était une rue d'immigrés à l'époque. À l'époque, les immigrés étaient les Italiens et les Polonais. Mmh. Et donc, je faisais partie des rares personnes d'origine nationale, française,
oui.
Dans cette rue, ce qui donnait, notamment avec les Italiens, quelque chose d'assez coloré. Par le côté napolitain, je dirais, l'âge aux fenêtres, et gens qui s'interpellent d'une fenêtre à l'autre, c'était très agréable, j'en garde un bon souvenir. Et ben, j'ai fait mes études donc à Fustel, et puis je me destinais à des études de lettres que j'ai pas pu faire parce que c'est la vie. Mmh. J'ai commencé dans l'éducation nationale, et puis j'ai adoré enseigner, mais j'ai pas adoré l'éducation nationale.
D'accord. Quelle matière tu as enseigné ?
J'étais tout jeune, donc j'ai enseigné français, histoire, géo.
D'accord.
Je voulais faire des études de français, latin, grec. Hein. Je voulais être professeur agrégé de français, latin, grec. C'était mon rêve. Pas réalisé, celui-là. Et voilà, après j'ai fait ce qui s'appelle aujourd'hui l'EM, qui s'appelait à l'époque l'IECS, mais bien après. Ah oui. Et après j'ai travaillé à la chambre de commerce et j'ai eu un parcours agité, on va dire.
D'accord. Et tu es devenu, en fait, restaurateur à quel moment de ta carrière, en fait
Alors, à un moment de ma carrière, j'ai fait donc, j'ai travaillé à la chambre de commerce, puis dans la grande distribution, puis j'ai fait du consulting dans un cabinet. Et puis, ce cabinet m'a envoyé faire des... Comment dirais-je, donner du conseil de gestion à un restaurant... fort connu à Bruxelles, qui s'appelle Chez Léon.
Ah, en effet.
Et qui a d'ailleurs le même âge qu'Ivan. Ce sont deux restaurants qui sont à peu près de la même année.
D'accord.
Et il suffisait de mettre un peu d'ordre. C'était pas grave. C'était simplement une succession qui ne s'était pas bien organisée. Et puis, c'était une belle dynamique tout à fait extraordinaire. Et j'ai sympathisé, et le rêve du garçon chez qui j'étais, qui s'appelait Rudy Van Lancker, qui est un type absolument remarquable, était d'ouvrir chez Léon à New York. Je lui ai dit, mais non, il ne faut pas aller à New York, il faut aller à Paris. Et puis voilà, on a créé la chaîne Léon de Bruxelles, et c'est comme ça que je suis rentré dans la restauration. Alors le 87, et l'ouverture du premier Léon à Paris, c'était 89.
D'accord. Et chez Yvonne, l'année
2001, pour moi.
D'accord.
J'ai repris Yvonne en 2001.
2001. Pour la première reprise. Puisque là, tu as donc repris chez Yvonne.
J'ai pris chez Yvonne de 2001 et en 2011, c'est-à-dire exactement au bout de 10 ans, ayant atteint l'âge de la retraite, je l'ai transmis à mes enfants.
D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu t'en occupes, on peut dire, presque quotidiennement. Tu es
Alors, je ne suis pas du tout chez moi. Je retourne à mes amours de consulting. Je suis consultant pour... la famille Burrus et Cédric Moulot, et je le fais avec un bonheur immense et beaucoup
Super,
de plaisir.
Génial. Tu es engagé sur plusieurs combats. Le siège du Parlement européen à Strasbourg, sur l'éthique alimentaire, sur la liberté de la presse, sur le statut de Simone Veil. On y reviendra tout à l'heure. Tu es à la fois à la frontière de l'économie, de la politique, dans le sens noble du terme, des grands enjeux de notre temps. C'est vraiment très rare et très précieux.
Je t'interromps, c'est des combats humanistes.
Humanistes.
C'est humaniste. Je n'ai pas de combat politique, mais l'humanisme rejoint souvent la politique, on est d'accord, bien sûr. Mais le point de rencontre de tous mes combats, c'est l'humanisme.
Ouais. Qu'on retrouve dans le capitalisme rhénan, je pense.
Oui, bien sûr.
Qui a été, je pense... à l'origine du développement extraordinaire du capitalisme il y a maintenant un peu plus d'un siècle. Et j'espère que d'ailleurs ce capitalisme rhénan, qui est féru d'humanisme, sera le capitalisme aussi de demain. Et je pense que c'est le combat majeur que, à mon avis, nous devons mener. Dans un pays où l'économie est tellement mal comprise, avoir des personnes qui côtoient ces différents univers avec une conscience de l'intérêt commun est vraiment très, vraiment rarissime. Est-ce que tu te reconnais dans les politiques actuelles par rapport à ces grands enjeux ?
Ouh là là. La réponse claire, c'est non, pas du tout. L'économie est pour moi au service de l'humain. Et la façon de diriger même le pays en ce moment, quels que soient les présidents d'ailleurs, quel que soit leur bord, est la primauté de l'économie. Il n'y a pas de primauté de l'économie, il y a une primauté de l'humain, enfin c'est ce qui devrait être. Quand on parle d'éthique alimentaire, si l'humain était la priorité, la primauté, on ferait à manger des choses qui sont bonnes et pas qui sont rentables. Quand on fait à manger quelque chose de bon, ça doit être rentable, c'est évident, mais l'objectif est que ça ne nuise ni à la santé, ni à l'environnement, et quand j'ai dit ça, j'ai défini mon combat pour l'éthique alimentaire. La gestion de ça, après, c'est le numéro 2. Bien sûr, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas le numéro 1.
Est-ce que tu penses que tes confrères restaurateurs sont conscients de ces enjeux-là et se battent pour ces enjeux-là ?
C'est une réponse un peu de Normand, une grande partie oui, ne serait-ce que tous ceux qui sont maîtres restaurateurs par exemple, qui se font une profession de foi de privilégier la qualité, c'est déjà bien. Maintenant, il est évident qu'un restaurant doit être rentable, mais ceux qui privilégient la rentabilité sur la qualité ont tort à long terme.
Je veux juste encore te poser deux questions te concernant. Quelle est l'origine de ton nom de famille ?
L'Aude. L'Aude, c'est un petit village, Valmigère. Je montre
le panneau du village.
Le panneau du village. C'est un tout petit village de montagne de 30 habitants au-dessus de Limoux, dans la montagne. Ici, il est petit. Et la famille vient de là, en fait. Ce n'est pas un titre nobiliaire hein, de Valmigère. C'est Jean-Louis de Schildikheim, hein, Jean-Louis de Valmigère. Il vient de là. Quand on a fait les noms et dans le temps. Comment tu t'appelles, Jean-Louis, et tu viens d'où, de Valmigère? Ah bah tu vas t'appeler Jean-Louis de Valmigère, c'est Cyrano de Bergerac en fait.
Très bien. Tu as écrit plusieurs livres, il me semble. Tu peux juste nous dire quels sont les sujets que tu as abordés? Ça donnera une petite idée de ton personnage.
Alors je les ai co-écrits avec des jeunes. J'en ai rédigé de grandes plages, mais non, ce ne sont que des livres sur l'Europe. Alors il y a eu La merveilleuse histoire de l'Europe. La merveilleuse histoire des institutions européennes, parce que la merveilleuse histoire de l'Europe est plus axée sur l'histoire proprement dite de l'Europe. Les institutions, c'est évidemment le Parlement, le Conseil et les droits de l'homme. Le suivant, c'est celui de Georges Bischoff. Je n'ai fait que l'introduction. C'est La merveilleuse histoire de Strasbourg. Et j'ai le plaisir immense d'annoncer que le prochain, ce sera La merveilleuse histoire de Simone Veil.
Ah, c'est génial. Super. Je crois que tu as un combat, je ne sais pas si c'est le terme peut-être un peu fort, mais c'est qu'on érige une statue pour Simone Veil à Strasbourg. C'est juste?
Non, pas à Strasbourg.
Ah, pardon.
Si, à Strasbourg, bien sûr. Non, l'idée, c'est de rendre un hommage à Simone Veil. Tout s'oublie et la politique est à ce moment-là, en ce moment, et de toute façon a toujours été assez cruelle. Et il y a des gens, il y a des personnages qui d'ailleurs ne sont pas des hommes ou des femmes politiques, au sens traditionnel du terme, qui ont marqué l'histoire. Simone Veil en fait partie, comme d'ailleurs Nelson Mandela. Hein. Ce sont des personnages dont l'aura est telle, où le général de Gaulle n'est pas issu du milieu politique. Il n'a pas fait l'ENAD, qui d'ailleurs n'existait pas, mais il n'a pas fait cette espèce de parcours du combattant qui consiste à être conseiller municipal, puis adjoint au maire, puis conseiller général, puis député, puis etc. Simone Veil est une humaniste au sens le plus pur du terme. Elle puise une partie de son humanisme dans sa détention à Birkenau, magnifiquement décrite par Teboul dans son livre L'Aube à Birkenau. Elle puise une partie de son humanisme là-dedans et puis toute sa vie est pétrie de ça.
On va faire une toute petite pause musicale. Quel morceau as-tu choisi et pourquoi, s'il te plaît ?
Le pourquoi, je l'ai pratiquement déjà dit. Le morceau choisi, c'est Rêver un impossible rêve, c'est la quête de Jacques Brel. Et la raison, c'est que tous les combats sont des utopies, quand ce sont des combats pour des idées, et que Jacques Brel le chante avec d'une façon extrêmement poignante. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, atteindre l'inaccessible étoile. Nous voulons tous ceux qui ont un idéal veulent atteindre cette inaccessible étoile. Il le chante avec tellement d'émotion que je m'y reconnais à fond.
Oui, moi aussi. Jacques Brel.
Mais alors, peut-être que ce n'était pas un rêve.
Vous parliez d'un rêve, vous parliez de la quête.
La quête? Les mots, dis-moi les mots.
Rêver un impossible rêve, ce sont vos propres mots. Portez le chagrin. Vous ne vous rappelez pas, brûlé d'une possible fièvre, vous devez vous rappeler, partir où personne ne part.
Aimer jusqu'à la déchirure.
Oui.
Aimer m'aime trop, m'aime mal.
Oui.
Tenter sans force, sans armure, d'atteindre l'inaccessible et toi.
Merci, mon Seigneur.
Mais quoi, princesse, à genoux devant moi.
Seigneur, vous êtes trop faible.
Trop faible. Qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que la blessure pour le corps d'un chevalier errant. À chaque fois qu'il tombe, voilà qu'il se relève. Et malheur aux méchants. Sancho!
Oui!
Mon épée, mon armure! Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. J'étais seul, je suis droit, Sancho, Dulcinea! Écoute-moi, un chevalier te défie! Oui, c'est moi, Don Quixote, Seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être toi, Don Quixote, sans peur, et le vent de l'histoire.
Seigneur,
maître.
D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
Il est souvent difficile de reprendre après une chanson aussi poignante, aussi émouvante. Pour rester sur Simone Veil, tu présides une fondation.
La fondation pour Strasbourg, oui, que D'accord. nous avons créée avec quelques amis il y a une dizaine d'années maintenant.
D'accord. Et c'est cette fondation qui porte en fait le combat pour une statue de Simone Veil à Strasbourg, c'est bien ça?
Oui, alors le premier combat, c'était une statue au chevalier Liebenzeller. Oui. Je vais en parler deux minutes parce que personne ne le sait.
Oui, c'est très important.
Et c'est intéressant d'en parler.
Absolument. Strasbourg. Ça résume bien ton personnage d'ailleurs. Oui. Je trouve, parce que tu cherches toujours du sens, je crois, à ce que tu fais. Et tu le cherches très très loin. Et là, très loin dans le temps, je crois.
Parce qu'il est très loin dans le temps. Strasbourg, et je vais choquer là, mais je le fais exprès. Strasbourg n'est pas une ville française, Strasbourg n'est pas une ville allemande, Strasbourg est une ville libre.
Oui.
Et voilà. L'histoire de Strasbourg, c'est la liberté, la République et la laïcité. Et je souligne quatre fois le mot laïcité. En 1262, le patron de la ville, je ne sais pas comment l'appeler, c'est un évêque. Et cet évêque est une ordure. Et je mâche mes mots. Évidemment, quand on dit ça aujourd'hui, c'est avec les mots d'aujourd'hui, mais à l'époque, les évêques étaient des chefs de guerre qui profitaient de la religion pour asservir le peuple, et les mots ne sont pas trop forts, c'est la réalité. Cet évêque, Walter de Gerolzec, avait asservi la ville de Strasbourg, et la ville de Strasbourg s'est révoltée. La ville de Strasbourg se soulève, et à sa tête, il y a le chevalier Liebenzeller, qui est le plus, celui qui a laissé un peu son nom dans l'histoire, malheureusement seulement un peu, et d'autres chevaliers aussi, Zorn entre autres, celui qui a acquis à Strasbourg. Et ils renversent l'évêque, et alors ils ne sont pas anti-religieux, ils veulent juste que ce ne soit pas la religion qui dirige la ville.
Voilà.
Et bon, ils gagnent, et le pape nomme un nouvel évêque, et Liebenzeller instaure à Strasbourg une république. République en 1262, avec des élus.
Incroyable.
Et il s'entend bien avec le nouvel évêque en lui disant une phrase du genre « Je m'occupe de la ville, tu t'occupes de l'église. »
Ciao.
Et chacun chez soi.
Voilà.
Et ça marche très bien. Donc je pense qu'on peut dire qu'il a inventé la laïcité.
Ouais.
Strasbourg restera une ville libre jusque sous Louis XIV, date de l'annexion à la France. Pendant tout ce temps-là, c'est quand même 4 siècles et demi d'histoire de Strasbourg. 4 siècles et demi de ville libre, c'est-à-dire comparé à 2 siècles et demi de France et à 60 ans d'Allemagne, c'est dans le poids de l'histoire et le poids de la liberté. Et c'est justement parce que c'est une ville libre où les intellectuels ne sont pas persécutés, contrairement à ce qui se passe avec l'Église catholique, qu'on peut faire l'imprimerie de Gutenberg, qui est de Mayence, il n'est pas de Strasbourg. Il vient ici parce qu'il sait qu'il ne sera pas brûlé vif pour avoir osé donner la Bible à des gens qui n'étaient pas issus du... etc. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire, ça serait trop long, mais la tradition de Strasbourg, c'est ça. Or, ce chevalier de Liebenzeller a été oublié de l'histoire, et il fallait lui rendre hommage. Il a été oublié de l'histoire parce que ça n'arrange personne. Dire que Strasbourg est une ville libre, ça n'arrange personne.
Absolument,
voilà.
Surtout pas avec, avec un État jacobin.
Avec qui, un État jacobin, il fallait lui rendre hommage, et d'où la statue. Ça, c'était un combat. Alors, Simone Weil, c'est un combat humaniste. Simone Weil, c'est une vraie figure de l'histoire. Elle n'a pas fait de politique, elle n'en a d'ailleurs jamais fait. Elle a fait de l'humanisme et s'est servi de la politique pour faire passer des idées humanistes. C'est ça qui est important.
Tu verrais la statue où, à Strasbourg?
Alors d'abord, il y a 8 statues. Il y en a 4 à Paris, à l'Assemblée nationale, au Mémorial de la Shoah, dont elle est l'initiatrice, à l'Académie française et au Panthéon. Il y en a une à Nice, où elle est née, et il y en a 2 à Strasbourg, et je répondrai tout de suite, et une à Birkenau, parce qu'il faut marquer cette présence.
Bien sûr.
Il faut savoir que ce sont des gens qui étaient là-bas et que ces gens, il y en a des connus, il y en a plein d'autres qui sont connus, mais nous avons choisi ce combat-là et pas un autre. Alors à Strasbourg, il y en aura une au Parlement européen et une, mais nous sommes en discussion avec, entamée avec la ville, la nouvelle, parce que l'ancienne municipalité s'était acquise, là on recommence un petit peu, à l'entrée de l'avenue de la paix Simone Weil, côté Place de la République.
D'accord.
Et le regard tourné, bien sûr, vers le Parlement européen.
Évidemment. Quel est ton avis sur cette information qui a quand même troublé beaucoup de Strasbourgeois, de Pierre Fimelin, qui s'est révélé comme François Mitterrand, vichiste dans sa jeunesse, qui ensuite a caché cet engagement-là. Pierre Fimelin qui a porté lui aussi les valeurs humanistes tout au long de sa carrière, qui les a représentées de la même manière que Simone Veil, il a trahi tout le monde. Et moi, personnellement, ça m'a fait très très mal. Il m'a remis un prix il y a 20 ans. Je ne comprenais pas. Et je me pose la question, doit-on... maintenir sa statue à l'Orangerie face au Conseil de l'Europe. Il a eu des engagements, j'ai un peu regardé, pendant le régime vichiste, extrêmement rudes, extrêmement durs. Toutes les lois anti-juives, il les a couvertes, il les a promues.
C'est très difficile de juger l'histoire à l'aune de l'actualité. Pierre Fimelin, c'est après la guerre. Après la guerre, 95% de la population avait été vichiste. Il faut quand même le dire.
Oui. C'est une particularité française.
C'est une particularité française. Les résistants étaient des voyous, des bandits, des terroristes, et ont été persécutés. Et ils étaient une toute petite minorité. Alors évidemment, le général de Gaulle leur a donné la légitimité. Il a réussi ce tour de force de faire croire aux Français
qu'on avait gagné la guerre.
Alors qu'on l'avait perdu. Alors évidemment... aujourd'hui où on est persuadé qu'on s'est libéré tout seul et que les Américains ont juste donné un petit coup de main à la fin, mais c'est faux, c'est de la mythologie. Alors c'est de la belle mythologie, je dis pas qu'il faut détruire cette mythologie, bien au contraire, mais enfin il faut quand même être conscient et réaliste. Or Fimelin était parmi ces gens, ni plus ni moins. Quand moi j'étais enfant, tout le monde savait que Fimelin avait été collabo. Tout le monde savait, quand j'étais enfant, que Mitterrand avait eu la Francisque et avait été aussi dans un gouvernement avec un ministre des questions juives, quand même. Ils siégeaient à la même table. Et c'était François Mitterrand, le socialiste. Voilà.
L'Européen.
Alors qu'il était nationaliste. Alors que sa vraie origine était la droite. Alors évidemment, quand on relit l'histoire à l'aune d'aujourd'hui, ça donne des histoires comme Papon, comme Bousquet, mais tous ces gens ont été blanchis à la libération parce qu'on avait besoin d'eux. Alors je dis pas que c'est bien, mais on avait besoin d'eux parce qu'il fallait construire. Et le général de Gaulle, dont on ne peut pas douter une seconde des sentiments français et des valeurs, s'est appuyé sur eux pour construire, et Flimin en fait partie. Alors c'est facile aujourd'hui de dire « il aurait pas dû, il y a qu'à, il faut qu'on », ben non, c'est comme ça, je suis désolé. Et parce que je vais à l'encontre de mes propres convictions d'ailleurs, mais on n'a pas le choix, et je pense que déboulonner des statues, c'est ridicule, on ne va pas déboulonner Mitterrand parce qu'il a siégé à côté du ministre des Affaires juives sous Pétain et Laval.
Mmh. On va changer totalement de sujet. Je voudrais juste un petit peu parler avec toi d'économie.
Je ne suis pas très bon.
Hein. Non, je pense que tu es très 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 modeste et tu es vraiment... comment dire, un chef d'entreprise remarquable parce que voulant donner du sens à tout ce qu'il fait et aussi dans tes engagements économiques. Et je pense que ça, c'est très rare. Et il y a juste un point que je voudrais aborder, c'est la notion de responsabilité qu'a le chef d'entreprise par rapport à la jeunesse. Aujourd'hui, après le Covid, la jeunesse souffre de ne pas trouver de stage, de ne pas trouver d'apprentissage. Je croise tous les jours, de par mon travail, des jeunes qui n'arrivent pas à...
Mais tu me les envoies?
Oui.
C'est pas moi. Moi, j'ai du mal à en trouver, je comprends pas.
Ouais, mais il y a un problème entre l'offre et la demande. Et il me semble que souvent les dirigeants d'entreprise ne remplissent pas leur rôle de transmission. En verrouillant en fait leur établissement, et je crois que là il y a un enjeu. Tu crois pas qu'il faudrait lancer un grand appel à tous les dirigeants d'entreprise à partir de
ça,
salariés?
C'est une conséquence.
Pardon.
C'est une conséquence. Tu as raison de dire ça, mais je pense que c'est une conséquence. Ma génération, donc qui est née tout de suite après la guerre, a vécu deux grands bouleversements. Heureusement pas armé comme ont vécu les générations d'avant. Ça a été mai 68, où il y a eu un changement total des paradigmes, des valeurs. On est passé d'un monde corseté, religieux catho ou religieux tout court, à un monde plus libéral. Et en ce moment, on est dans une autre révolution qui est liée au Covid. Pendant un an, les gens n'ont pas travaillé, ils se sont remis en question, pas du tout dans l'absolu, mais par rapport au travail. Mmh. Ils se sont rendus compte que le travail n'était pas le but de la vie, c'était le moyen. Et c'est ce que nous devons faire comprendre maintenant, et nous devons nous adapter à ça. Mmh. C'est à nous de nous adapter. La révolution, elle est faite, ça y est.
Oui,
totalement. Mais c'est à nous de raisonner en fonction de ça. Donc c'est une conséquence, tu as raison dans ton analyse, mais la conséquence est qu'il faut trouver le langage maintenant, parce que les jeunes, ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de travailler, mais il faut qu'on les comprenne d'une façon différente.
Mmh. Je te remercie. On pourrait continuer encore des heures et des heures, je crois. Tu as vraiment une vraie réflexion. Je le redis, chez un dirigeant d'entreprise, c'est assez rare. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, chez Yvonne. La semaine prochaine, j'aurai le grand plaisir de recevoir le grand rabbin du Bas-Rhin, Harold Weil, pour une émission exceptionnelle. Merci, à bientôt.
Merci.